Histoire.
Bonjour, aujourd'hui à 48 heures de l'anniversaire du 11 septembre, Al-Qaïda et Ben Laden, 4 ans après.
Je jure par Dieu le Tout-Puissant que l'Amérique et tous ses habitants ne pourront plus dormir en sécurité tant que cette sécurité ne sera pas une réalité en Palestine et tant que toutes les armées d'infidèles n'auront pas quitté la terre du prophète Mohammed, que Dieu bénisse son nom.
D'histoire. Il faudrait n'avoir jamais ouvert un journal, une radio ou la télévision et n'avoir jamais entendu parler des attentats de New York, de Madrid, de Londres, de Sharm el-Sheikh ou de Bagdad pour ignorer le nom de l'homme que l'on vient d'entendre. Et si personne ne sait aujourd'hui où il se cache, ni même s'il est vivant, Ben Laden est aujourd'hui le terroriste le plus célèbre et le plus recherché du monde. Il y a 4 ans pourtant, à part quelques spécialistes du renseignement, personne ou presque n'avait entendu parler de lui, ni de l'organisation qu'il est censé diriger, jusqu'au 20 septembre 2001. Ce jour-là, 9 jours après l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, le président des États-Unis désignait les responsables de l'attentat le plus spectaculaire de l'histoire. Rappelez-vous, c'était il y a 4 ans, à 8h45, heure de New York.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'île de
Dieu. Qui a attaqué notre pays? Les preuves que nous avons réunies nous mènent à un ensemble d'organisations terroristes plus ou moins liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda.
Ce groupe et son leader Osama Ben Laden sont liés à de nombreuses autres organisations. Il y a des milliers de ces terroristes dans plus de 60 pays. Ils sont recrutés dans leur propre pays, dans leur quartier, et amenés vers des camps dans des pays comme l'Afghanistan, où ils sont entraînés au terrorisme.
Gilles Kepel et Xavier Hofer, bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
C'était il y a 4 ans, George Bush parlant pour la première fois d'une organisation à laquelle vous venez tous les deux de consacrer un livre, celui que vous présentez, Gilles Kepel, Al-Qaïda dans le texte, qui vient d'être publié au PUF et dans lequel vous reconnaissez vous-même qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur Al-Qaïda qu'il y a 4 ans. Quant à vous, Xavier Hofer, dans le livre que vous avez écrit avec Alain Bauer, l'énigme Al-Qaïda, vous allez encore plus loin en vous demandant même si cette organisation existe vraiment. Alors bien sûr, vous ne dites pas, comme l'a fait un farfelu il y a 4 ans, que le 11 septembre est un complot américain, mais on a le sentiment en vous lisant que tout ce qu'on dit, en tout cas sur Al-Qaïda, relève plus du fantasme que de la réalité.
Je voulais revenir d'abord sur les dates pour dire qu'à mon sens, c'est pas 4 ans que la date importante, c'est celle du 23 août 1996, jour auquel Osama Ben Laden a publié une déclaration de guerre à l'Amérique, et qu'on n'en est pas à 4 ans en arrière, mais à 9 ans. En ce qui concerne la chose qu'on appelle Al-Qaïda, nous observons une chose, et c'est ce qu'on a commencé à dire dans notre livre, Boer et moi. Il est toujours très important de savoir quand un mot fait son apparition, qui le cite pour la première fois. La première fois où ce mot est cité, c'est en un communiqué du département d'État des États-Unis, qui date du mois d'août 1996 aussi, et dans ce texte, donc, du communiqué du département d'État des États-Unis, il est fait référence à un monsieur qui s'appelle Osama Bin Laden, qui dirige un mouvement charitable qui s'appelle Al-Qaïda, et à l'époque, ils disent que ça veut dire front du salut ou quelque chose comme ça.
En tout cas, ce que vous dites tous les deux, Gilles Kepel et Xavier Hofer, c'est que il faut pas chercher dans d'autres mouvements terroristes quelque chose qui ressemble à Al-Qaïda, parce que c'est pas l'ETA, c'est pas l'IRA, qui ont une signature, qui ont un nom, qui ont une organisation, même si elle est clandestine. Al-Qaïda, c'est beaucoup plus diffus, et d'ailleurs, le mot lui-même
a un double sens. Il est assez difficile à définir. Ça veut dire quoi, Gilles Kepel?
Alors, Al-Qaïda en arabe, ça veut dire effectivement beaucoup de choses. Ça veut dire la base. Ça peut vouloir aussi dire la norme, la règle, l'ordre. Et on a demandé à Ben Laden sur Al Jazeera pourquoi il utilisait ce terme, parce que c'est pas, ça ne désigne pas une organisation islamique a priori. Il a dit, oh, c'est un terme qu'on a utilisé comme ça parce que l'un de nos dirigeants, qui était un officier de police égyptien qui était retourné, qui était allé dans leur rang, avait créé un camp de base pour former des jeunes djihadistes en Afghanistan, et puis le nom est resté. Et après, le terme de base en arabe peut vouloir dire aussi, comme en français ou en anglais, la base de données, en arabe, qaidat al-ma'lumat. Et de ce fait-là, vous avez le deuxième sens métaphorique de ce terme, qui veut dire le rassemblement de tous ces activistes, ces militants à travers le monde, qui ne se sont pas forcément rencontrés, et qui communiquent par Internet, par chat, et... Par ailleurs, c'est la norme, c'est l'ordre, c'est la règle. Et ça, on le voit par exemple si on réfléchit à la façon dont le mouvement fonctionne. C'est-à-dire qu'il intervient sur l'ordre du monde, sur l'agenda mondial. Pensez à ce qui vient de se passer en Angleterre. Le 7 juillet, ça devait être l'ordre, disons, des grands, des puissants. C'était le rassemblement du G8 en Écosse. C'était les Jeux Olympiques à Londres. Et puis... Le terrorisme intervient là-dedans, ce sont les attentats dans le métro et des bus de Londres. Donc il y a un changement de l'agenda, c'est une sorte de nouvelle norme, de nouvelle règle que le mouvement veut imposer pour penser les relations internationales et se définir comme une sorte de groupe de purs. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Xavier Hofer sur la temporalité. Il y a deux niveaux, il y a d'une part ce qui se donne à voir à la télé, puisque ce sont des attentats qui sont préemballés d'une certaine manière pour la télé. Ça, tout le monde en est au courant depuis 4 ans, depuis le 11 septembre. Mais en fait, bien avant cela, il y a déjà toute une littérature qui circule, notamment sur l'Internet en arabe. Et c'est celle qu'on a traduite dans ce livre, Al-Qaïda dans le texte, qui est destinée non pas au grand public, aux masses à mobiliser, mais qui est destinée aux militants et aux activistes.
Alors dans ce livre, justement, Gilles Kepel, que vous présentez, il y a notamment la signature d'un homme qui a joué un grand rôle. À l'origine, au fond, de ce qu'on appelle Al-Qaïda, il y a d'abord un courant, ce que vous appelez, Xavier Hofer, un courant djihadiste mondial, c'est-à-dire en gros peut-être le djihad, la guerre sainte, on verra peut-être sur la définition, et qui est né il y a exactement 25 ans, quand les soviétiques ont envahi l'Afghanistan. France Inter, Patrice Bertin, en décembre 1979.
Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan. Des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Les soldats russes ne cherchaient même pas à se cacher.
Sur la piste de Kaboul, devant des dizaines et des dizaines et des dizaines de chars russes qui sont à moins de 30 mètres de nous. Et puis maintenant, nous passons devant une série de MiG alignés, des hélicoptères, du gros matériel, et puis les chars qui font mouvement à perte de vue.
Vive l'islam, mort au communisme.
Et c'était en 1979 le début de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Vous le rappelez bien, Xavier Hofer, même si le mot Al-Qaïda apparaît et rendu public qu'en 96, la matrice au fond de ce qu'est ce mouvement, ce courant djihadiste mondial, c'est d'abord cette guerre menée par les Russes il y a plus de 20 ans en Afghanistan, parce qu'elle a fait venir, non seulement il y avait des résistants afghans, mais des combattants, des moudjahidines, des combattants musulmans, la plupart du temps arabes, étrangers, venus se battre contre les Russes, c'est ça.
En tout cas, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que le début d'un événement, la première fois qu'un événement se produit, c'est tout sauf anodin. Ça veut dire que tous les événements qui se produiront par la suite au Cachemire, en Tchétchénie, vont se fonder sur la matrice, sur le modèle afghan. C'est là qu'une certaine manière de faire la guerre, de concentrer une stratégie, une tactique qui est celle de l'essaim de guêpe, à savoir que des petites unités ou des individus se concentrent brutalement à un endroit, frappent et après ça se disperse. C'est à ce moment-là que ça a été inventé dans les montagnes d'Afghanistan, et tout djihad au sens où on le donne couramment
djihad,
maintenant,
c'est
toute
la
forme
sens.
De guerre, ouais, toute guerre contre les infidèles qui se fait par la suite, va s'inspirer et se fait sur le mode de ce qui s'est produit dans les années 80 en Afghanistan. C'est pour ça que c'est important.
Et autour d'un homme, Gilles Kepel, dont vous citez des textes dans ce livre, Al-Qaïda dans les textes, dans le texte, et qui s'appelle Abdallah Azam, qui est au fond un peu le père spirituel de Ben Laden.
Oui, d'une certaine manière. Abdallah Azam est un Palestinien qui quitte son pays, qui a fait fait des études de sciences religieuses islamiques en Égypte, et puis ensuite au Caire, à l'université Al-Azhar, où il a eu un doctorat. Et quand les Russes envahissent l'Afghanistan, il sera sollicité pour émettre des avis juridiques, des fatwas au nom de son savoir religieux, pour appeler au djihad. Alors le djihad, ça ne veut pas seulement dire la guerre sainte. En arabe, ça veut dire tout effort que l'on fait pour propager l'islam. Ça peut être un effort personnel, un effort sur soi, mais dans le contexte politique et militaire en question, ça veut dire une opération militaire. Et Azam est celui qui va rendre au sens de djihad aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, sa dimension militaire. C'est-à-dire que pour lui, c'est un devoir individuel de chaque musulman dans le monde de combattre pour libérer l'Afghanistan, terre d'islam, des troupes impies soviétiques.
Et se battre donc en Afghanistan, pour l'instant, cette activité, ce djihad se produit qu'en Afghanistan. Ce qu'il y a, c'est qu'en 89, les Russes s'en vont. À l'époque, il faut rappeler d'ailleurs que ces djihadistes, ces combattants, sont aidés par les Américains. En 89, donc, fin de la guerre, les Russes s'en vont, les talibans s'installent. Et surtout, tous ces gens-là, venus de l'étranger, ces combattants étrangers, ces brigades internationales, en quelque sorte islamistes, ben, retournent chez eux. Et là,
Azam meurt en 89, ce qui est une chose très importante, parce que ce seront ses héritiers qui vont traduire son message de sa manière. Et surtout, il se retrouve sans le sou sur place. Il retourne pas tout de suite chez eux, il se retrouve sans le sou. Et le seul qui a de l'argent sur place, c'est Ben Laden. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont se transformer.
Et le deuxième point qu'il faut préciser, c'est que beaucoup restent sur place parce que la guerre n'est pas finie. Ils combattent le régime de Najibullah, c'est-à-dire le régime communiste afghan qui est resté au pouvoir à Kaboul après le départ des soviétiques. Donc les choses continuent un peu, mais il n'y a plus de fric pour le faire.
Et puis surtout, ils vont finir par rentrer pour beaucoup d'entre eux chez eux. Notamment, on va les retrouver en Algérie. D'ailleurs, on les appelle partout les Afghans. On va les retrouver en Égypte. On va les retrouver en Arabie Saoudite. On va les retrouver dans d'autres Afghanistan, si on peut dire, pour défendre, là encore, l'islam, en Bosnie ou en Tchétchénie. Au fond, quand vous parlez de Ben Laden, Gilles Kepel, la base aussi, c'est le fait que ces gens-là, ces combattants, qui d'ailleurs vont avoir avec les talibans des bases, Al-Qaïda, hein, justement, en Afghanistan, ces combattants, au fond, quelle est la place de Ben Laden? Il en vient un peu le patron.
Pas tout à fait tout de suite, non, parce que dans un premier temps, c'est-à-dire à peu près jusqu'en 96, jusqu'à la date de la déclaration de djihad contre les Américains, l'accent va être de doubler, si vous voulez, le djihad afghan, le modèle du djihad afghan, sur le terrain. C'est-à-dire de créer des guérillas islamistes qui s'efforcent de faire tomber le régime par la force, comme c'était le cas en Afghanistan, en Égypte, en Algérie, vous y avez fait allusion, en Bosnie, en Tchétchénie, au Cachemire. Ça ne marche pas, finalement, ils n'y arrivent pas. Et c'est en 96 à peu près que ça commence à tourner en la faveur des régimes. Avec, en 97, la fin de la guerre en Algérie et en Égypte. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place une autre stratégie qui va s'élaborer graduellement, qui n'est plus la guérilla sur place pour essayer de mobiliser des masses qui ne se mobilisent pas, mais qui va recourir à l'attentat spectaculaire perpétré par des activistes en petit nombre qui ne sont pas une organisation visible.
Et contre les anciens alliés, c'est-à-dire les Américains, car il y a une chose qui est considérable aussi qui se produit au début des années 90, c'est l'installation des Américains sur la terre sainte de l'islam, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Là, il y a vraiment, c'est l'argument invoqué par tous les attentats qui suivront, c'est la présence des infidèles à la Mecque, enfin en tout cas sur la terre du prophète, bien sûr. Et la création en 98, vous dites que c'est une année charnière, Xavier Roffert, par Ben Laden, et c'est d'ailleurs une coalition d'autres mouvements islamistes, d'un front islamiste mondial du djihad contre les juifs et les croisés, une coalition de plusieurs mouvements donc islamistes, qui rend publique une déclaration de guerre aux Américains, 6 mois avant le premier attentat qui puisse être attribué à ce qu'on appelle Al-Qaïda, le 7 août 1998, France Inter, Denis Astagnio.
Deux ambassades américaines détruites par des bombes, deux attentats presque simultanés ont détruit l'ambassade des États-Unis à Nairobi, au Kenya, et celle de Dar es Salaam en Tanzanie. Les victimes se comptent par dizaines, sans doute plus de 60 morts, dont 8 Américains et 1 millier de blessés. Ce sont vraisemblablement des voitures piégées qui ont explosé. L'Amérique y s'est réveillée ce matin avec cette nouvelle, est en état de choc, et Bill Clinton, très ému, est apparu tout à l'heure à la télévision.
These acts of terrorist violence are abhorrent, they are inhuman. Ces actes de violence terroriste sont répugnants, ils sont inhumains. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les responsables devant la justice.
Aux États-Unis, on laisse entendre simplement que la piste islamiste est privilégiée, mais on attache guère d'importance aux revendications d'une organisation inconnue parvenue ces derniers jours à Londres et à Paris. En fait, à Washington, on parle surtout d'un curieux personnage, un homme qui est considéré comme le terroriste le plus dangereux du monde, le milliardaire saoudien Osama Bin Laden. Avec ses amis islamistes, il aurait juré la perte des États-Unis.
C'est la première fois qu'on rend public comme ça le nom de Bin Laden, en tout cas que le grand public l'entend. Xavier Roffer, à l'époque, à la suite de ces attentats de Nairobi et de Dar es Salaam.
À l'époque, il avait déjà depuis au moins 2 ans donné des interviews à de grands quotidiens du monde occidental, notamment à l'Independent de Londres, et il commençait déjà à se faire un nom. Il n'était pas connu des larges masses, comme on disait dans le temps en Chine, mais il était déjà un peu connu. Ce que je voulais dire, c'est que le retournement de situation du début des années 90, à partir de 80, milieu des années 90, et puis surtout le brusque renversement de 98, n'aurait pas dû être une surprise pour les Américains. Il y a des preuves, des traces, des enregistrements qui montrent que dès Peshawar, quand Ben Laden était à Peshawar à la fin des années 80, il disait déjà ouvertement, aujourd'hui nous combattons les Soviétiques, mais n'oubliez jamais que notre véritable ennemi, c'est l'Amérique et les Juifs. Et donc il le disait déjà clairement. Il y a des télévisions d'Abu Dhabi qui ont enregistré des choses.
Pourtant, j'ai le sentiment que Bill Clinton était surpris.
Il était d'autant plus surpris qu'après le départ des Soviétiques, vous savez ce qui c'est de notoriété publique, ce qui s'est passé après le départ des Soviétiques d'Afghanistan. Le chef de poste de la CIA à Peshawar a envoyé un fax au siège de la CIA avec écrit en gros comme ça sur une feuille de papier « We won, on a gagné », suite à quoi le patron de la CIA a offert le champagne à ses lieutenants, à tout son état-major, et ils se sont désintéressés de l'affaire.
Voilà.
Et donc il y a eu un vide total dans la région. Ils ont commencé à avoir une vague idée de ce qui s'y passait au moment où les talibans sont arrivés au pouvoir à Kaboul. Hein. Mais à ce moment-là, il y a eu un rapport incroyable aussi de la CIA en disant, ouais, on les a vus, ils sont sympas, vous savez, ils nous font un peu penser aux baptistes du sud des États-Unis, c'est des gens très religieux, mais en dehors de ça, ils ont l'air inoffensifs.
Et puis, il y a ces textes, Gilles Kepel, mais pour vous poser une question, il y a ces textes que vous citez, cette déclaration de guerre, on peut le dire, qui est la création de ce front islamique mondial du djihad, contre les Juifs et les croisés c'est les Américains, qui auraient pu quand même leur mettre la puce à l'oreille.
Oui, il y a deux choses. D'abord, le 7 août 98 n'est pas une date anodine. C'est l'anniversaire, puis ils adorent les anniversaires, ils adorent tout ce qui est symbolique et qui fait. Hein. C'est l'anniversaire de la date, le 7 août 90, à laquelle le roi Fahd d'Arabie Saoudite a appelé les troupes américaines à venir sur le sol saoudien, justement, pour protéger l'Arabie Saoudite contre l'armée de Saddam Hussein qui vient d'envahir le Koweït. Et c'est le moment, si vous voulez, de la rupture, et c'est très symbolique, parce que tout le monde l'a compris dans le monde musulman, ou tous ceux qui devaient le comprendre, que c'était l'attentat contre les deux ambassades américaines marquait la rupture radicale entre le monde d'Al-Qaïda et le régime saoudien.
Alors cet attentat sera suivi d'un autre contre un destroyer américain au large du Yémen, bon, qui est sans gravité, en tout cas qui n'est pas très meurtrier, mais c'est évidemment peu de choses à côté de cet attentat insensé, invraisemblable du 11 septembre 2001, au lendemain duquel, d'ailleurs, on va l'entendre, Ben Laden rendait hommage, non pas aux victimes, mais à ceux qui avaient perpétré l'attentat du 11 septembre.
Ces jeunes ont fait quelque chose de grandiose. Dieu leur a offert une grande destinée. Il faut que leurs parents soient fiers d'eux. Ils ont permis aux musulmans de relever la tête. Ils ont donné une leçon que les Américains ne sont pas prêts d'oublier. L'un d'entre eux, Ziad Jarrah, venait du pays de Damas. Que Dieu l'accepte parmi ses martyrs. Il y avait aussi Mohamed Atta d'Égypte. Que Dieu l'accepte également.
Il y a 3 démons dans le monde, les Russes, les Américains et les Indiens. Longue vie à Oussama Ben Laden, hurlent ces jeunes gens. Tous ceux qui aideront les Américains seront des traîtres.
Gilles Kepel, il y a quelque chose dont on ne s'est pas très bien rendu compte au lendemain du 11 septembre, c'est que si ces attentats ont légitimement indigné l'opinion publique dans les pays occidentaux et les gouvernements d'ailleurs de presque tous les pays du monde, pour beaucoup de musulmans, on vient de l'entendre, les auteurs des attentats, Ben Laden, ce sont des héros.
Oui, on peut dire ça pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là au Moyen-Orient, et dans l'un des enregistrements qui passe, lui, que vous avez passé ici, celui du 7 octobre 2001, Ben Laden s'exprime toujours dans un arabe très clair et très compréhensible. Tout d'un coup, il est devant la grotte, vous savez, etc. Et puis il prêche, il dit « Oksemo Bellah, la dikhalaka sema bila armeda, j'en atteste par Allah qui a créé le ciel sans colonne, que jamais l'Amérique ne dormira tranquille tant qu'il y aura ceci en Palestine, ceci en Irak, etc. » Et ça a suscité une sorte de réaction d'enthousiasme, parce que le 11 septembre, il faut pas oublier, puisque dans une émission sur l'histoire, que ça se produit au moment où la deuxième intifada est en plein expansion et où le Hamas et le djihad islamique ont pris le contrôle de l'agenda de l'intifada et où les grands actes de l'intifada, ce sont les attentats suicides. Et au fond, et qui sont abondamment loués sur la chaîne Al Jazeera et autres, comme une résistance à Israël. Et le 11 septembre 2001, d'une certaine manière, peut être lu comme une sorte d'attentat suicide en Israël magnifié. Vous savez, dans une pizzeria ou un bus israélien, les kamikazes du Hamas ou du djihad islamique tuaient 30 personnes. Là, on en tue 3000. Et Ben Laden essaye de surfer sur cette vague-là pour récupérer le combat palestinien mené par les islamistes à son propre profit.
Alors, vous avez cité Gilles Kepel, quelque chose qui est très important. Vous le dites d'ailleurs également dans une interview. Sans les médias, justement, si ces attentats, si Al Jazeera ne reproduisait pas, justement, les cassettes de Ben Laden, le mouvement n'existerait pas, en tout cas n'aurait pas le succès qu'il a pu avoir. Ça a permis aussi l'émergence d'une nouvelle génération de combattants qui ne sont jamais allés en Afghanistan, ni peut-être même en Bosnie, qui n'habitent pas nécessairement dans des pays musulmans, et qui sont derrière deux nouveaux attentats qui se sont multipliés depuis, Londres, Casablanca, Madrid, Sharm el-Sheikh, etc. Est-ce qu'il y a des liens entre les organisations qui sont à l'origine de ces attentats et une espèce de bureau central qui serait Ben Laden, dont on suppose évidemment qu'il n'a pas les moyens de leur donner des consignes, Xavier Hoffer?
Le véritable pouvoir dont il dispose en réalité de l'endroit où il se trouve à l'heure actuelle, entre parenthèses, nous voyons de temps en temps des gens qui sont sur ces enquêtes-là dans les services américains. Ils ont à peu près la quasi-certitude qu'il est vivant aujourd'hui. Donc, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de la fatwa, c'est le pouvoir du verbe qui est transmis par toutes sortes de canaux, par des cassettes, par des CD-ROM, par Internet. Et ce pouvoir-là touche beaucoup de gens. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, de façon récurrente, c'est-à-dire tous les ans, pendant plusieurs années, il y a eu au Punjab, dans une ville qui s'appelle Mouridkay, une grande cérémonie faite par un mouvement islamiste où à chaque fois, de 2 à 300 000 jeunes hommes faisaient allégeance à Bin Laden. Dans une seule ville, 2 à 300 000 venus de l'ensemble du Pakistan. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement massif. Et ça voyage tout seul. C'est-à-dire que ça flotte, ça atteint des gens. Les gens en question créent spontanément un petit groupe, se connectent par mosquée interposée avec, premièrement, des religieux qui leur disent s'il est licite d'accomplir tel ou tel acte, hein, et là-dessus il y a de nombreux exemples de ça dans le livre patronné Gilles Kepel, et à la suite de quoi les gens passent à l'acte.
Alors il y a de nouveaux militants et puis aussi de nouveaux théâtres d'opérations avec un nouveau héros que l'on entend ici enregistré et traduit par Nicolas Hénin le 31 mai 2005 à Boubousab al-Zarqawi.
De la part du soldat qui se trouve sur la ligne de front, Abu Musab al-Zarqawi, à notre prince Abu Abdallah Oussama Ben Laden. Si je vous ai beaucoup manqué, au fond de mon cœur, il y a un feu qui me rappelle combien vous me manquez. Rapidement, le chef de la filiale irakienne du groupe islamiste se montre rassurant. Il dément les rumeurs qui ont couru sur sa santé. D'ailleurs, sa voix claire veut confirmer qu'il n'est pas grièvement blessé. Il ne s'agit que de blessures légères, comme notre service de presse l'a indiqué. Et Dieu merci, je lutte maintenant avec mes frères et mes partisans contre les croisés au pays des deux fleurs. Enfin, l'islamiste jordanien promet des actions d'éclat pour les prochains jours, mais il rappelle sa soumission. Il sollicite les conseils d'Oussama Ben Laden. Nous attendons vos instructions et vos ordres, nous qui ne sommes que vos jeunes frères.
Et c'était Abu Musab al-Zarqawi le 31 mai 2005, 4 ans après le 11 septembre. On a le sentiment, Xavier Hoffer, que depuis 4 ans, au lieu de reculer, ce terrorisme attribué à Al-Qaïda s'étend, et qu'au fond, au lieu d'éteindre, déployer, comme veulent le faire, soi-disant, les Américains en allant, par exemple, en Irak, ils se sont multipliés.
L'affaire irakienne est naturellement totalement catastrophique. C'est une machine à fabriquer des djihadis et des militants islamistes, évidemment. Et je me souviens très récemment d'une photographie qu'on a vue dans tout le Moyen-Orient et sur toutes les télévisions de soldats américains ayant fait des insurgés prisonniers en Irak. avec les mains ligotées et en train de les marquer au front comme du bétail avec des stylos feutres, cette image-là à elle seule a fait plus de djihadis que tous les discours de Bin Laden, évidemment.
Compte tenu du fait que c'est une entreprise, que si on peut dire Al-Qaïda éclatée, une nébuleuse comme on dit, on a évidemment le sentiment aussi que la mort de Bin Laden, si elle intervenait, celle de Zarqawi, ne changerait rien. Au fond, c'est une guerre sans issue. Je vous pose la même question, j'y rappelle. C'est un peu le sentiment
qu'on
a.
Oui, ils sont pris entre deux problèmes. C'est-à-dire que on le voit bien dans tous ces textes qu'on a traduits de l'Internet, qu'on a commentés. En fait, leur objectif, c'est de mobiliser les masses par des attentats spectaculaires. Or, ces masses ne se mobilisent pas. Et du coup, ils sont contraints, pour continuer à exister, de reproduire toujours la même chose d'une façon qui évoque quasiment la manie, puisque on a eu 4 avions à New York et Washington, 4 trains de banlieue à Madrid, 4 bus et métros à Londres. On a ce sentiment que le mouvement se nourrit lui-même de sa propre répétition. Et c'est ça qui est extrêmement préoccupant, mais qui en même temps est d'une certaine façon aussi rassurant, parce que au fond, ils n'arrivent pas à ces objectifs, comme les brigades rouges autrefois.
Oui, mais ils continuent. C'est ça qui est inquiétant. Voilà. On peut se demander, on a l'impression d'une guerre sans issue.
Et pour une guérilla, le triomphe, c'est de durer.
Eh ben, c'est pas très réjouissant ce que vous avez dit, mais vos livres sont passionnants. Xavier Roffer, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Alain Bauer de L'énigme Al-Qaïda, qui vient d'être publié chez Jean-Claude Lattès, et vous, Gilles Kepel, un livre aussi passionnant que vous avez dirigé avec Jean-Pierre Milelli, Al-Qaïda dans le texte, un livre publié aux Presses universitaires de France. Je signale également que vous pourrez voir ce soir sur France 2 un documentaire où Oussama Ben Laden, La Traque, un documentaire diffusé à 23h45. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Camille Poux, Claire Tesser, Amélie Briand, Le Jeune et Caroline Chausset, et à la réalisatrice Anne Comilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, le tueur en série le plus célèbre du XXe siècle, Landru. Mardi, la disgrâce de Fouquet à l'époque de Louis XIV. Mercredi, 100 ans après sa mort, l'explorateur Pierre Savornian de Brazza. Jeudi, 25 ans après les accords de Gdansk, le syndicat Solidarité. Et enfin, vendredi, au cœur de l'Himalaya, un pays méconnu, le Bhoutan. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Bonjour Eric.
Bonjour Patrice, et à lundi.